Tournez avec nous, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. On a entamé la semaine dernière une série, Vision Ecclésia pour cette année, pour 2015, qui s'inscrit dans une vision à plus long terme. Alors, je veux vous encourager, si vous avez manqué l'exposé de la semaine dernière, c'était un point de départ, d'accord? Alors, allez l'écouter sur le site web, allez vous procurer le CD, mais prenez le temps d'aller écouter justement l'exposé de la semaine dernière. Parce qu'on a commencé une réflexion ensemble. On veut entamer l'année 2015 en fixant les regards sur Christ et en demandant à Dieu de venir nous montrer ce qu'il veut faire dans nos vies et là où il veut conduire l'Église. On va commencer par écouter, à travers notre frère Jay, j'allais dire Jésus, mais c'est Jay qui va faire la voix de Jésus ce matin. Dans Jean 14, on va écouter la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Jean, comme Yannick a dit, au chapitre 14, dans l'édition Louis II. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. » Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Merci, Jérémy. Alors, comme l'année dernière, on veut commencer l'année, je vais prendre du jargon évangélique, en cherchant la face de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire en priant, en demandant à Dieu de venir parler à nos cœurs. Je l'ai expliqué la semaine dernière un petit peu, mais... Il y a une différence fondamentale entre prendre des résolutions puis ce qu'on est en train de vous proposer de faire. Prendre des résolutions, c'est regarder ma vie moi-même et puis dire, bon, mais qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie cette année? Qu'est-ce que j'aimerais attaquer cette année dans ma vie? Il y a quelque chose de fondamental qui change au moment où tu connais Dieu, au moment où tu connais Jésus-Christ. C'est que l'Esprit Saint de Dieu entre dans nos vies, dans notre cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et puis, on n'est plus seul dans cette aventure-là. Ce n'est pas un projet personnel, c'est un projet d'équipe. C'est un projet que je fais avec Dieu. Et donc, une différence fondamentale, c'est qu'on veut consulter Dieu. Et ça, ça se fait de différentes manières. Ça se fait en lisant la parole de Dieu. Ça se fait en prenant du temps à l'écart, un peu plus que d'ordinaire, des fois dans le silence avec un carnet de notes, puis commencer à prendre des notes, puis réfléchir un peu, puis juste être à l'écoute de ce que Dieu peut mettre sur mon cœur, mes lectures. Ça se fait en consultant les gens autour de moi. Bien souvent, si tu es marié, je peux te le dire, ton épouse, c'est probablement mieux que toi ce que Dieu veut changer dans ta vie. En tout cas, elle a une idée. C'est sûr, c'est sûr qu'elle a une idée là-dessus. Fait que c'est bon de la consulter. Mais consulter les proches, les enfants, les collègues de travail, si vous avez le courage de faire ça, des amis. Chrétiens, non chrétiens. Et donc, pendant tout le mois de janvier, on est à la recherche de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Il va nous amener n'importe où où il le veut dans l'année, d'accord? Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, puis c'est pas parce que je pense que j'ai identifié ce qu'il est en train de travailler que bang, je suis en plein dedans. Ça fonctionne pas comme ça. Mais en même temps, on veut marcher dans la plénitude de l'Esprit et on veut être à l'écoute de l'Esprit Saint. Alors, comment est-ce qu'on a intitulé cet exercice-là qu'on fait en Église? Bien, on veut être tout simplement plus comme Jésus. Notre prière, c'est qu'à la fin de l'année 2015, je puisse regarder l'année puis dire, « Wow, Seigneur! » Et les gens autour de moi même puissent voir puis dire, « C'est vrai, tu as grandi. Tu as grandi spirituellement. Tu portes davantage en toi le caractère de Christ dans ce domaine-là, dans ce domaine-là. » Alors, cette année, on a un petit support pour vous aider dans cette réflexion-là. On a un carton qui va vous être distribué qui s'appelle tout simplement « Plus comme Jésus ». Vous avez ça d'un côté, ça va vous être distribué si ça n'a pas déjà été fait. Et puis de l'autre côté, on y revient la semaine prochaine, la semaine d'après. Mais voici ce que je vous encourage à faire. Pour l'instant, vous n'écrivez rien à l'encre. Okay? Moi, j'ai déjà quelque chose d'écrit ici, c'est au plomb. Prenez le mois de janvier pour prier. Si vous dites, OK, j'ai trouvé deux domaines, c'est ça qu'on vous encourage à faire, deux domaines. J'ai trouvé deux domaines où le Seigneur veut travailler. Continuez à prier. Peut-être que c'est autre chose. Peut-être qu'il va vous montrer autre chose. Mais si vous avez la certitude que vous avez identifié ce qui est à travailler, continuez à prier. Pour demander au Seigneur, précise, Seigneur, qu'est-ce que tu veux travailler? Dans quel domaine exactement? Comment est-ce que ça va s'appliquer dans ma vie, tout ça? Et vers la fin du mois de janvier, vous écrirez ça à l'encre. Glissez ça dans votre Bible, sur votre table de nuit, ou là où vous allez le voir régulièrement, dans l'endroit dans la maison où vous allez prendre un temps avec Dieu le matin, le soir, peu importe, dans votre journal personnel, vous mettez ça quelque part pour aller le voir régulièrement et on va vous encourager pendant l'année de différentes manières à grandir à cet égard-là. C'est bon? Commencez à prier sur ça, commencez à chercher la face de Dieu, puis Dieu va répondre à ça. Et ce matin, on va exactement dans le même sens continuer cette réflexion-là. Ce matin, on va voir ensemble qu'écouter Jésus, croire en lui et le suivre. L'écouter, le croire et le suivre dans les endroits les plus surprenants. Et les plus ardus, c'est ça qu'on est appelé à faire en 2015. C'est ça qu'on est appelé à faire en 2015. On va commencer dans l'Évangile de Matthieu. Si vous voulez tourner avec moi, vous pouvez aller dans Matthieu 17 au verset 5. Je vais vous lire un passage brièvement dans Matthieu 17, verset 5. Jésus est sur la montagne avec deux des disciples et Dieu va se manifester. Et à un certain moment donné, la voix de Dieu est entendue. Je donnerai ma chemise, mon char, ma maison pour vivre ça. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Apprendre à écouter Jésus. Pour ça, je vous dis, la différence entre prendre des résolutions seul avec moi-même, ben, je vais être à l'écoute de quoi? À l'écoute de moi? À l'écoute de mes désirs, de mes rêves, tout ça? Mais il y a une personne qui a marché sur la terre, qui est venue sur la terre, qui a bouleversé l'histoire de l'humanité d'une manière absolument unique. Mais il y a surtout une seule personne sur la terre de qui Dieu a prononcé ces paroles-là. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous avez une espèce de concentration dans la personne de Jésus de tout ce que Dieu aime le plus. Et après avoir dit ça, Dieu dit ceci. Écoutez-le. Écoutez-le. À un certain moment donné, Jésus est avec ses disciples et puis il lance un défi à la foule parce que il y a toutes sortes de monde qui sont attirés à Jésus. On est attiré à Jésus pour toutes sortes de raisons. On est attiré à lui pour sa sagesse. Il y a des gens qui lisent les évangiles encore aujourd'hui puis qui se disent, écoute, faut que je me tape la Bible, faut que je me tape les évangiles un jour, ça se peut pas. Ça définit non seulement l'Occident, mais l'histoire de l'humanité. Il faut à un certain moment donné que je lis ça, puis il lit ça, puis il trouve qu'il y a de la sagesse, tout ça. Donc, il y a des gens qui suivaient Jésus, qui venaient à lui pour toutes sortes de raisons. D'autant plus qu'il faisait des miracles. Ce qui est quand même exceptionnel, n'est-ce pas? C'est miraculeux, c'est exceptionnel par définition. Mais Jésus n'en faisait pas un, deux. C'était pas comme celui que tu suivais en disant, j'ai entendu dire, il y a 5 ans, qu'à un moment donné, il a dit quelque chose, puis boum, il y a quelqu'un qui a marché. Non, il en faisait tous les jours, constamment, ça n'arrêtait pas. Les gens venaient à lui, puis à un certain moment donné, Jésus leur lance un défi. Il dit, vous n'êtes pas ici pour connaître Dieu. Vous me suivez pour ce que vous pouvez tirer de tout cela, mais vous ne cherchez pas vraiment Dieu. Et puis là, la foule le quitte, l'abandonne, et puis il se tourne vers ses disciples et leur dit ceci dans Jean 6. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Puis là, dans un moment de grâce, parce que Pierre, pour dire des choses intelligentes, ça lui prenait un moment de grâce. Il disait pas juste des choses intelligentes. Mais dans un moment de grâce, par une intervention de Dieu, nous dit la parole, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et ailleurs, Jésus nous dit que cette vie, lorsqu'elle entre dans le cœur de quelqu'un, c'est un fleuve qui commence au moment où il croit, au moment où il expérimente, nous dit Jésus, la nouvelle naissance, et ça jaillit jusque dans l'éternité. Jésus a les paroles de vie. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Je deviens chrétien parce que je l'entends, parce que je l'écoute, mais je grandis comme chrétien parce que je continue à l'écouter. C'est vraiment un défi dans la foi de continuer à écouter Jésus. Par définition, on réfléchit par nous-mêmes, on prend des décisions, on s'enligne par nous-mêmes, on veut orienter les choses. Je l'ai dit dernièrement, vers la fin de l'année, je suis un gars hyper intentionnel. C'est tellement un réflexe plus naturel pour moi de planifier les choses, de trouver les solutions, d'organiser ma vie, d'avoir des rêves par moi-même. Et c'est vraiment un défi pour moi quotidiennement de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin aujourd'hui de t'écouter, Seigneur. Avec les années qui passent, de plus en plus, cette parole-là de Pierre trouve son sens dans ma vie. Je ne peux pas trouver par moi-même, à l'intérieur de moi-même, par toutes sortes de lectures, les paroles de la vie. Si ce n'est pas en Jésus que je les trouve. Et donc, j'ai besoin de disposer mon cœur à écouter Dieu. À écouter Jésus. Ça se fait de toutes sortes de manières. Ça se fait premièrement en lisant la parole de Dieu. Parce que toutes les Écritures nous parlent de Christ. Et donc, lorsque je veux écouter Jésus, ça se fait en passant du temps dans la parole. Mais ça se fait énormément dans la prière. Parce que lorsque je m'en vais dans la prière, c'est comme si c'est là que j'entends ce que je crois pour de vrai. Quand je suis en silence dans la prière, j'entends mes propres pensées et je suis capable de voir si mon cœur est à l'endroit où le Seigneur veut que j'aille. Puis là, je médite sur ce que j'ai lu puis je dis, « Seigneur, mon cœur est rempli d'inquiétude. » C'est l'Esprit qui est en train de me parler. Il est en train de me dire, « Attends un peu, qu'est-ce qui se passe là? » Et là, à cet endroit-là, dans la prière, c'est à ce moment-là où lorsque j'entends toutes ces pensées-là qui ne sont pas selon Christ, selon Jésus, c'est là que je vais éventuellement les déposer auprès du Seigneur. Puis là, les paroles de Christ me reviennent, la parole de Dieu me revient, puis je commence à sonder ça à la lumière de la parole, et quand je quitte la prière, vous savez ce que Paul dit lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Des fois, ça se fait avec une prière presto, d'accord? Un petit espresso vite, c'est fini. Des fois, souvent, ça prend plus de temps que ça, ça prend un bon repas. Un bon feast spirituel, un bon repas spirituel avec le Seigneur, où je suis là et je vais dans la prière. Parce qu'au début, tout ce que j'entends, c'est mes inquiétudes. Et j'ai besoin d'apprendre à écouter Jésus, parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Quand j'étais en train de méditer sur qu'est-ce que ça veut dire écouter Jésus en 2015, il y a y a une phrase qui m'est venue. C'est une exhortation, c'est un encouragement que je vous apporte à tout le monde. N'ayez pas peur du sermon sur la montagne. Là, il y en a qui ne connaissent pas pantoute, c'est quoi le sermon sur la montagne? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tournez avec moi dans Matthieu 5. Je veux juste vous lire quelques extraits dans Matthieu 5. Et ce que je voudrais faire en vous montrant ça, c'est simplement vous aider à voir comment on arrête facilement d'écouter Jésus. Facilement. Le sermon sur la montagne est super important parce que dans l'évangile de Matthieu, c'est le premier discours public où Jésus vient nous aider à comprendre comment Dieu voit sa parole. Comment Dieu voit toute la loi de l'Ancien Testament. C'est quoi vraiment la pensée de Dieu? C'est comme si tu as, à travers Jésus, le commentaire de Dieu sur sa parole. Puis honnêtement, là, ça devient vraiment malade. Là, ça devient malade. Puis plus tu lis, ça se peut que de plus en plus, tu as le goût d'arrêter d'écouter Jésus. Dans Matthieu 5, voici ce qu'on lit. Verset 1, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Est-ce qu'il est fou? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Versets 19 et 20, je termine sur ça. « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et le réflexe qu'on a comme chrétien, lorsqu'on a saisi l'Évangile, c'est de lire ça, puis après, là, c'est juste de dire, « Oh, merci Seigneur pour la croix. On est sauvé par grâce, Éphésiens 2, 8 et 9. On est sauvé par grâce parce que ma justice ne peut pas dépasser celle des scribes et des pharisiens. » Ce n'est pas ça qu'il dit ici. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une formule de style qu'il est en train de faire ici. N'ayez pas peur d'écouter le sermon sur la montagne, de le lire, de le méditer, puis de dire, « OK, Jésus, qu'est-ce que tu es en train de me dire ici? Qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner? » Cette année, en 2015, je veux écouter Jésus. Et lorsque je vis des épreuves, des moments difficiles, je veux encore l'écouter pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de me dire par rapport à ça. Par exemple, vous vivez une difficulté dans votre caractère, votre tempérament, puis vous savez que si vous étiez un bon chrétien, vous feriez ça au lieu. Mais si lorsque vous pensez à ça, à chaque fois, vous tombez sur le mode culpabilité. Puis là, vous avez l'impression que vous entendez Jésus parce qu'à chaque fois, vous dites, « Oui, je le sais, Seigneur, je devrais être comme ça. » Moi, je vous dis, ce n'est pas Jésus que vous entendez. Une fois, deux fois, c'est vrai. Ce n'est pas Jésus que vous entendez. C'est le petit bonhomme religieux qui est à l'intérieur de vous. Puis vous êtes pogné à cet endroit-là. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que Jésus a juste ça à vous dire sur ça. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Christ est venu afin qu'on soit heureux. Christ est venu afin qu'on soit libre. Christ est venu afin qu'on soit grand. Et si c'est juste ça que vous entendez à chaque fois par rapport à cette difficulté-là, ce combat-là, ce péché-là, c'est pas Jésus que vous entendez. C'est le petit bonhomme religieux qui est à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'aller dans la parole puis d'écouter ce qu'il veut vous dire par rapport à ça. Là où il veut vous conduire, il veut vraiment que vous soyez heureux. Que vous soyez béni de Dieu. Il veut vraiment vous transformer. Il veut vraiment vous rendre libre. Il veut vraiment qu'à travers ça, vous soyez une bénédiction pour les gens autour de vous. Il y a vraiment une bénédiction là-dedans. Puis la bénédiction, c'est pas juste la souffrance et le renoncement. C'est grandir, c'est devenir grand. J'aime bien ce que David Platt exprime lorsqu'il dit « Suivre Jésus, c'est croire Jésus, et pour le croire, il faut l'écouter. Un disciple est un apprenti. » Continuellement attentif aux paroles de son maître et transformé par son enseignement. Il pose la question, comment vais-je remplir mes pensées de Dieu et alimenter mon attachement à lui? En 2015, on veut apprendre à écouter Jésus parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui qui a les paroles de la vie. On commence par écouter Jésus. Puis c'est ça que je cherchais à illustrer avec le sermon sur la montagne. Très, très vite, on se rend compte que pour l'écouter vraiment et longtemps, il faut vraiment croire en lui. Et donc, si Dieu attire mon attention par une parole de Christ, après ça, la prochaine étape, c'est de croire en lui. C'est vrai au jour de mon salut, c'est vrai. On annonce l'Évangile à quelqu'un, il partage la bonne nouvelle, puis il entend. Est-ce qu'il va croire en Jésus? Dans le passage que Jérémie nous a lu tout à l'heure dans Jean 14, je vais juste vous relire trois petits moments dans le passage. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Un peu plus loin, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Encore un peu plus loin, il dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Croyez en lui. La vie chrétienne commence lorsque je commence à entendre sa voix et je commence à découvrir qui il est. Je vais vous faire écouter un petit extrait vidéo ce matin. Denis Arcand, réalisateur, déclin de l'Empire américain, invasion barbare. Dans un documentaire qui s'appelle « Heureux naufrage », Guillaume Tremblay, qui a réalisé le documentaire, voulait adresser l'espèce de vide qu'a laissé au Québec le fait que les Québécois, dans leur conflit, dans ce qu'ils ont vécu avec l'Église catholique, ont aussi démissionné en grande partie du christianisme. C'est vraiment intéressant d'entendre ce que lui, quand même, a entendu en lisant les Évangiles. On va juste écouter ça une petite minute.
Cet écho-là est une voix unique qui n'a pas d'équivalent. Le seul qui se rapproche de ça, c'est le Bouddha, avec l'idée de la compassion. Mais l'idée de la compassion dans le bouddhisme est une compassion un peu passive, alors que dans le christianisme, c'est vraiment une compassion active. Faire quelque chose pour son prochain. Aimer votre prochain comme vous-même, pour l'amour de Dieu. Et ça, c'est unique, il n'y en a pas d'autre. Il y a eu des grands philosophes, il y a eu Socrate, il y a eu plein de choses comme ça. Mais ça, c'était la raison, le calme, il y a eu les épicuriens, les stoïciens, etc. Mais cette notion de charité est unique, en tout cas dans ce que je connais, là, dans l'histoire du monde. Et ça, pour moi, ça me touche beaucoup, beaucoup.
Intéressant, hein? Intéressant, hein? Il a entendu des choses dans l'Évangile. Pendant les fêtes, je jasais avec un petit cousin de mon épouse. Et puis, Monsieur charmant, extrêmement brillant, qui me dit lui-même, il dit, moi, Yannick, je suis athée. Mais on parlait des valeurs, puis il parlait de l'inquiétude que ça lui procurait, du fait que les nouvelles générations n'ont pas vraiment rien sur lequel établir leurs valeurs. Alors, il dit, moi, j'ai adopté des valeurs. Puis c'est vraiment intéressant. Je lui parlais un petit peu d'un autre individu qui intervient, un autre monsieur, le comte Sponville, qui intervient dans le documentaire. Puis ce philosophe-là, athée, disait, j'ai beau être athée, le jour où j'ai eu des enfants, j'ai réalisé que si je voulais leur donner des valeurs, les meilleures valeurs que j'allais trouver, c'est celles que Jésus a apportées. Même si je suis athée. Et lorsque je parlais avec ce petit cousin-là, il m'a dit, mais je suis à peu près à la même place. Parce qu'en réalité, les valeurs qui m'inspirent le plus, c'est les valeurs que Christ a apportées. J'étais content de cette conversation-là avec lui, parce que je voyais qu'il avait commencé à écouter Jésus. Il avait commencé à écouter Jésus. Et si vous êtes ici ce matin, à quelque part, c'est parce que vous avez commencé à écouter Jésus. À travers le témoignage de quelqu'un, l'intervention de quelqu'un, une lecture que vous avez faite, quelque chose comme ça. Mais en même temps, j'ai quitté cette conversation-là avec le cœur un peu triste, puis vraiment un esprit de prière, parce que je priais pour lui, puis je me disais, « Ouais, mais tu ne crois pas en lui. Tu ne crois pas en lui. » Voyez-vous, le passage qu'on a cité dans Jean 14, les disciples ont entendu Jésus, puis encore une difficulté à croire. Même Pierre a fait cette déclaration, comme j'ai dit, dans un état de grâce absolument extraordinaire. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus doit leur dire, croyez en moi. Et puis un peu plus loin, Thomas dit, montre-nous le Père. Qu'est-ce que Jésus dit? T'as pas compris, Thomas? Crois en moi. Si tu m'as connu, t'as connu le Père. Parce que le Père est en moi comme je suis dans le Père. Et si dans mon cheminement spirituel, dans mon écoute de Jésus, je ne franchis jamais ce pas-là de réaliser que Jésus n'est pas simplement un autre sage qui est venu, mais il est plus que ça, il est Dieu qui s'est incarné homme. Je sais que c'est fou, mais sa vie dépasse la norme, sa vie est extraordinaire, son message est extraordinaire. Et si cet homme qui a réalisé quand même des grands films reste là, à cet endroit-là, où tout ce qu'il entend de Jésus, c'est qu'il nous a montré un modèle d'amour absolument unique, comme il dit, mais qui n'arrive pas à l'endroit où il croit en lui. Passe le message pour se tourner vers la personne de Jésus. Il va passer encore à côté de l'essentiel. Alors, si c'est votre cas, si vous n'avez pas cru en Jésus, encore, écoutez, c'est ma prière pour vous en 2015. Il faut que vous croyiez en lui. C'est ma prière pour vous. C'est la plus belle chose qui peut vous arriver. C'est une vie nouvelle qui commence. Pas parce que vous êtes dans une église évangélique, pas parce que vous joignez une gang de croyants. C'est parce que vous rencontrez une personne qui passe le cap de l'enseignant et qui devient cet ami, qui transforme vos résolutions de bonne année en collaboration avec quelqu'un d'autre sur qui je m'appuie pour être transformé. Croyez qu'il est le Christ, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Maintenant, une fois que j'ai cru, et c'est ça qui est illustré ici dans Jean, une fois que j'ai cru, j'ai encore besoin d'apprendre à croire. Et si ça fait quelques années que vous êtes chrétien, vous savez de quoi je parle. Une fois que j'ai cru en lui, c'est comme si le chemin de la foi fait à peine commencer. Parce que là, se présentent à moi toutes sortes de circonstances où je dois apprendre à croire en lui là, à cet endroit-là. Les disciples savaient que Jésus était extraordinaire. Ils l'avaient vu faire plein de miracles. Mais rappelez-vous ce moment où ils sont dans la tempête et puis Jésus est en train de dormir dans la barque. Puis il est paisible, il est là dans la barque. Et puis il y a ce moment où eux autres, ils paniquent et ils sont certains qu'ils ne s'en sortira pas vivant. Jésus se lève, apaise la tempête, puis en fin de compte, il leur dit, « Vous ne croyez pas en moi, les gars. Vous ne croyez pas en moi. Vous ne réalisez pas qui je suis. Je suis avec vous dans la barque. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? À part que ça brasse un peu. Croyez qu'il dit la vérité, qu'il détient tout pouvoir, qu'il est au contrôle des éléments. En 2015, l'Esprit de Dieu veut vous amener à croire en Jésus. Vous dites, non, Yannick, je suis déjà chrétien. Quand je me lève le matin, puis je ferme les yeux pour prier, puis mon cœur est rempli d'inquiétude. C'est un endroit où l'Esprit veut venir planter ce drapeau-là de la foi en Christ. Quand je suis dans une circonstance au travail, puis je vois la voie que je prendrais si je n'avais pas l'Esprit de Dieu, puis celle que l'Esprit veut m'amener à prendre. Toutes sortes de décisions au quotidien, il y en a plein. Et je décide de m'engager dans cette voie-là au lieu. C'est un endroit où l'Esprit de Dieu veut venir planter ce drapeau-là de la foi en Jésus-Christ. Le bonheur, la bénédiction, l'abondance se trouvent à marcher avec Christ, de croire en lui. Et c'est pour ça que j'ai besoin de revenir constamment à l'écouter, à écouter Jésus pour qu'il me montre ces endroits où je ne crois pas vraiment en lui. Dans mon couple, dans ma communication, dans mes relations, dans ma santé, dans mes souffrances, dans mes projets, dans mes rêves, dans mes décisions au quotidien, j'ai besoin d'apprendre à croire en Jésus. Et si en 2015, on devient tous un peu plus comme Jésus, c'est parce qu'on va croire plus en lui. Amen. C'est parce qu'on va croire plus en lui. Parce qu'il y a les paroles de la vie. Et lorsque je l'entends, lorsque je crois en lui, je commence à agir comme un disciple. Je commence à devenir un suiveur de Jésus. J'aime ça ce terme-là. C'est un petit peu humiliant, hein? Qui veut être des suiveurs? Y a-t-il qui veut être des suiveurs ici? Vous savez, des fois, lorsqu'on parle avec des amis, avec la famille, tout ça, ou avec des gens, puis ils ne comprennent pas notre foi, puis à un moment donné, ils vont nous lancer ça vite comme ça. Regarde, écoute, t'es faible, t'as besoin d'une béquille, c'est ta béquille, je comprends ça. Ils sont tellement, tellement pas dedans. J'ai pas besoin d'une béquille, vous comprenez, je suis mort, j'ai besoin d'un cœur, une transplantation, une résurrection. C'est pas ma béquille, c'est ma vie. Une béquille, t'es far out, man, c'est pas assez. Je suis mort! Paf! Dead body! J'ai besoin d'une transplantation cardiaque. C'est mon cœur, c'est ma vie, c'est tout. C'est bien plus que ma béquille. Ça m'insulte pas que tu dis ça. T'es en dessous encore. Mais moi, je suis un suiveur de Jésus. Parce que j'ai essayé pendant 19 ans de suivre Yannick, puis à un moment donné, j'ai dit, ça va finir mal, cette histoire-là. Fait que j'ai décidé de suivre Jésus au lieu. Il y avait pas mal plus d'espoir là. Être un disciple de Jésus, ça veut dire le suivre, le laisser nous guider dans les endroits les plus surprenants. Cette année, en 2015, on veut être des disciples de Jésus, ça veut dire qu'on va le suivre. C'est comme ça qu'un disciple apprend, c'est qu'il laisse le maître le conduire, il observe le maître comment est-ce qu'il agit, puis après ça, il imite. Mais je vais laisser Jésus me conduire dans les endroits les plus surprenants. Voyez-vous, si dans votre compréhension de la foi chrétienne, c'est « OK, en 2015, si je suis plus Jésus, ça veut dire que je vais être prêt à souffrir plus. » Gang d'hypocrites, de religieux, vous n'avez rien compris au christianisme. Se charger de sa croix, c'est pas souffrir, c'est vivre. Et donc, si dans votre vision, vous dites « Ouais, je sais pas si je suis prêt à m'engager cette année à suivre un peu plus Jésus puis me laisser transformer parce que ça veut dire que c'est pas comme l'année la plus cool qu'on va vivre. Jésus vient à des gars qui sont des pêcheurs. Ils pêchent du poisson. C'est cool, j'aime ça aller à la pêche, c'est le fun. Mais il leur dit, c'est correct. Vous trouvez ça hot? Moi, je vais vous faire pêcheur d'hommes. Vous allez aller vers des gens puis vous allez les amener à connaître Dieu. Vous allez les conduire dans la liberté. Vous allez les amener dans une vie nouvelle, dans une joie extraordinaire, dans un bonheur avec Dieu. Pensez-vous que ces gars-là rêvaient même de pouvoir faire ça? Et donc, suivre Jésus en 2015, c'est laisser Jésus-Christ nous conduire dans des endroits surprenants. J'aime bien cette citation de C.S. Lewis qui dit « Le problème avec les chrétiens, c'est pas Le problème avec les chrétiens, c'est pas qu'ils cherchent pas, qu'ils cherchent trop le bonheur. C'est qu'ils se satisfont de beaucoup trop petits. Beaucoup trop petite joie. Dieu veut nous offrir un océan, puis on est là dans notre mare debout, puis flic, flac, on s'amuse. Ouh, de l'eau! Il veut nous conduire plus loin que ça. Et donc, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu veut faire avec vous. Si quelqu'un m'avait dit, lorsque j'avais 19 ans, qu'un jour je pourrais écouter des gens, leur apporter une parole, et ils quittent la conversation complètement transformée, je ne l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit à 19 ans que j'allais un jour choisir une femme, l'épouser, le plus grand rêve, un des plus grands rêves de ma vie, ça allait toujours être 22 ans plus tard, juste qu'elle se sente plus aimée par moi. Si vous connaissiez mon histoire, vous comprendriez que je ne l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit, alors que j'avais 19 ans, qu'à 44 ans, mon plus grand bonheur, ce serait de dire, Seigneur, cette année, moi, je veux vivre pour les autres, pas pour moi. Je vous le dis, je ne l'aurais jamais cru. Si vous voulez suivre Jésus en 2015, mettez-le pas dans une boîte, s'il vous plaît. Pensez pas que le christianisme, suivre Jésus, c'est simplement souffrir davantage. Christ veut vous amener plus loin, il veut vous faire grandir, il veut vous amener plus haut. C'est ça la vérité. Parce que lorsque Christ est formé en nous, on devient tellement plus beau. Tellement plus beau. Suivre Jésus, c'est le laisser nous conduire dans des endroits surprenants et les obstacles que vous voyez devant vous. Apprenez à suivre Christ puis à voir au-delà de ça parce que vous n'avez aucune idée de ce qu'il veut produire en vous. Et si vous n'êtes pas capable de rêver grand, laissez-le vous conduire dans les rêves qu'il a pour vous. Suivre Jésus, c'est aussi, c'est vrai. Être un disciple de Jésus-Christ, ça veut dire aussi le laisser nous conduire dans les endroits les plus ardus. Et ne pas avoir peur d'aller dans ces endroits de souffrance en 2015, parce qu'il y a des bénédictions exceptionnelles qui sont là. Thomas Watson, un pasteur du 17e siècle, a écrit ceci, un homme d'expérience. Il a écrit, « Dieu a eu un fils sans péché, mais aucun sans épreuve. Dieu met ses enfants à l'école de la croix, et c'est là qu'ils apprennent le plus. » Ah oui, c'est vrai. C'est vrai aussi, suivre Jésus, être un suiveur de Jésus, ça veut dire que je vais accepter de me charger de ma croix. Puis aller dans ces endroits de souffrance que j'ai tendance à fuir pendant des mois, des fois des années. Mais il y a des bénédictions qui sont là que tu ne peux pas attraper dans une classe. Tu pourras lire les meilleurs livres, tu pourras lire les meilleurs auteurs chrétiens, ça va demeurer des rêves. Ça va demeurer des rêves. Moi, je rêve d'être un homme de prière qui prie 20 heures par semaine. C'est un rêve. La prière, ça prend à genoux, en train de jeûner, à avoir le goût 400 fois de te lever à toutes les 3 minutes. Et il y a des choses qui s'apprennent dans la souffrance qui s'apprennent juste là, juste à cet endroit-là. Des fois, c'est dans des relations que je dois réouvrir pour aller adresser des choses, il y a de la réconciliation qui doit aller se faire là, il y a des choses qui doivent être adressées. En 2015, je veux être un suiveur de Jésus en le laissant me conduire dans les endroits les plus surprenants. Je ne veux pas limiter Jésus, mais aussi en le suivant dans les endroits les plus ardus, parce qu'il y a là des bénédictions que je ne trouverai nulle part ailleurs. Est-ce que vous voulez le suivre avec moi en 2015? Pas me suivre moi, suivre Jésus. On va passer à la louange ensemble. J'aimerais ça que dans ce temps de louange, on puisse s'exprimer avec nos cœurs, avec nos voix, notre désir de l'écouter en 2015, d'apprendre à l'écouter, notre désir de croire en lui vraiment. Et notre désir de le suivre, de le laisser nous conduire. Alors, continuez à prier pendant tout le mois de janvier. Mettez ça dans la prière. On veut être des disciples de Christ en 2015. Seigneur, montre-moi comment je peux être plus comme toi à la fin de l'année 2015? Qu'est-ce que tu veux travailler dans ma vie? Et venez prier avec nous dimanche prochain à 9h. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, dans ta grâce, j'ai connu que tu as les paroles de la vie. Dans ton infinie bonté, tu as ouvert les yeux de mon cœur, Seigneur. Et j'ai connu que tu as les paroles de la vie éternelle. Et j'ai cru, Seigneur, que mon salut, mon espérance, ma paix, ma réconciliation avec Dieu, la paix avec mon Dieu, une vie nouvelle, se trouvait à cet endroit où je croyais en toi, dans ton sacrifice à la croix pour moi, personnellement pour mes péchés. Et à 19 ans, j'ai décidé, Seigneur, de te suivre. Je me souviens, Seigneur, ma prière était toute simple. J'ai dit, c'est toi qui prends le volant, c'est toi qui dirige, c'est fini, j'arrête de suivre Yannick. Je veux te suivre toi maintenant, Seigneur. Et depuis plus de 20 ans, Seigneur Jésus, je le confesse, j'apprends encore à t'écouter, à croire en toi et à te suivre. Et j'ai besoin de cette grâce quotidienne, renouvelée quotidiennement, pour que là où tu veux me conduire, j'apprenne à t'écouter, à te croire et à te suivre, Seigneur. Et Seigneur, en 2015, je ne veux pas te mettre dans une boîte et limiter ce que tu pourrais vouloir faire avec moi parce que je ne crois plus en toi lorsque je me regarde dans le miroir. Je doute de ta capacité de me transformer, Seigneur, de me surprendre, de m'émerveiller avec tout ce que tu veux faire autour de moi, dans les gens autour de moi, à travers moi. Seigneur, par la foi, parce que j'ai connu que tu es bon. Tu es bon parce que tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Comment douterais-je de ta bonté, Seigneur? Je veux aussi te laisser me conduire dans les endroits les plus ardus, dans ces lieux où je vais être appelé à souffrir, Seigneur. Et par ta grâce, j'y verrai ta bonté transformatrice, pour m'amener à te ressembler, Seigneur Jésus. Oh, sois béni. Sois béni, Jésus. Amen.